Cette émission est rendue possible grâce à mes patrons. Pour devenir un patron, allez sur patreon.com/stupid et suivez les instructions.
My dingling, my dingling, I want you to play with my dingling.
This act is over. Well, ladies and gentlemen, I'd like to put the...
Salut tout le monde, ici Stupid et bienvenue à ce Dedans le Pit du lundi de Pâques. On est le 17 avril, 20h07, un petit retard, on a eu des troubles de Skype. Eh bien aujourd'hui c'est une première à Dedans le Pit, on va parler de sexe. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le sujet d'aujourd'hui est le sexe, parce qu'on a déjà peut-être fait des blagues dans le passé. Et le sujet n'était pas sexuel. Mais là, on va parler d'éducation sexuelle aujourd'hui. Et vous allez être très surpris parce que ça ne sera pas avec un sexologue, ça ne sera pas avec une travailleuse du sexe, ça va être avec le président de l'Association des parents catholiques du Québec, mon invité, Georges Bouchemi. Bonjour, Georges.
Bonjour, Monsieur Pitre.
Alors, bienvenue à l'émission.
Merci.
Alors aujourd'hui, on va parler du programme d'éducation sexuelle que le gouvernement va mettre de l'avant dans les écoles au Québec. Et votre association, vous avez probablement feuilleté le programme et vous avez trouvé qu'il y avait des choses là-dedans qui n'avaient peut-être pas d'affaires dans les écoles.
C'est ça. Nous autres, notre point de vue, c'est que surtout pour la religion catholique, la sexualité, c'est quelque chose de sacré. C'est un sacrement, ça veut dire que ça représente le Christ et son Église. Alors, quand une femme et un homme se mettent ensemble, c'est pour la vie, c'est pour avoir des enfants, c'est pour l'union du couple, c'est pour la durée. C'est un apprentissage de toute une vie. Il y a toute une philosophie derrière ça, profonde, théologique, philosophique. Et ce qu'on nous offre ici, c'est comme un buffet de demi-vérités, d'idéologies diverses, de relativisme, des bizarreries, des choses non prouvées scientifiquement. Alors, ça nous dégoûte. Je veux même pas que mes enfants approchent ça du tout. D'ailleurs, mes enfants font l'école maison, et ça, c'en est une raison. Puis, il y a d'autres raisons, dont le cours éthique et culture religieuse. Alors, bref, nous, ça nous dégoûte que ces cours-là soient offerts, non seulement offerts, mais imposés à l'ensemble de la population, y compris les écoles privées. Donc, même si nous, on voulait partir notre propre école pour éviter cet égout à ciel ouvert, il faudrait quand même qu'on intègre ces cours d'éducation sexuelle, fausse sexualité. Alors, on est révolté par cela, puis nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour prémunir nos enfants contre ce cours-là.
Mais en fait, c'est sûr que la vision des gens catholiques, parce que bon, moi j'ai étudié au séminaire de Saint-Bruno, j'étais pensionnaire, j'ai été enfant de cœur. Donc, j'ai grandi dans le catholicisme et on voit qu'il y a eu une érosion assez importante de cette religion-là au travers les dernières années. Donc, tout le côté moral de la religion catholique qui était avant imposée, parce que c'était la religion catholique qui était une institution qui était imposée aux enfants. Et maintenant, on a dit qu'il y a une séparation maintenant des écoles avec les croyances religieuses, peut-être parce que justement, si on regarde au début des années 80, on a commencé à avoir un peu plus d'immigrants qui provenaient de différentes souches religieuses. Comme moi, au séminaire, il y avait un juif déjà qui était là. Peut-être des musulmans qui sont arrivés après. Puis on dit, regarde, on va faire table rase. La religion, maintenant, c'est ça doit se faire à la maison. Alors, je vois que votre vision à vous de la sexualité, elle est très, très catholique. Là. C'est une façon de le voir. Puis je suis persuadé en même temps que les musulmans auraient exactement le même discours que vous et les juifs aussi. Je pense que la vision de la sexualité dans les religions monothéistes, ça se ressemble pas mal. Mais au-delà de ça...
Il faut quand même... Oui, mais continuez.
Oui, c'est ça. Au-delà de ça, disons que la sexualité depuis peut-être, je sais pas moi, 25 ans, elle est devenue beaucoup plus festive. Hein, quand on regarde, par exemple, n'importe quoi, les films, les émissions de télé, tu sais, avant, tu voyais pas ça, deux femmes s'embrasser à la télé. Tu voyais pas vraiment des scènes de sexe à la télé à 7-8 heures le soir. Si tu regardes le Canal Vie, par exemple, tu vas voir des adolescents jaser ouvertement de sexe et c'est important de se protéger, etc. Et même, je dirais que la religion catholique, même dans les années 80, moi en tout cas au séminaire, prenait un certain virage dans le sens où les moines, ce qu'ils nous disaient, c'est nous autres, on trouve pas ça correct si vous avez des relations sexuelles avec une fille puis vous la traitez comme un objet. Mais si vous l'aimez vraiment, puis c'est votre blonde, on n'a rien contre. Puis ça, là, oui. Je parle du milieu des années 80. Puis ça, c'est le moine, là, on s'entend, là.
Oui, mais c'est ça. Alors, bon, vous parlez d'un changement. C'est certain qu'il y a eu un changement. Alors, comment évaluer ce changement-là? Est-ce que c'est une amélioration? Est-ce que c'est un progrès? Ou est-ce que c'est un signe de profonde décadence? Alors, voilà comment décider de cette question-là. Moi, je la vois comme une décadence. Alors, puisque la sexualité a une fin, puisque le mariage a une raison d'être, puisqu'il y a un bien et un mal, puis il doit y avoir une façon d'évaluer cela, alors, la sexualité, le mariage, c'est premièrement pour faire des enfants. Deuxièmement, c'est pour unir le couple dans un lien conjugal qui dure pour toute la vie. Alors, étant donné ces finalités-là de la sexualité, d'avoir des relations hors mariage, c'est mauvais parce que tu peux finir avec des enfants dont tu ne peux pas assumer la responsabilité. Ça finit par l'avortement, ça finit par des choses, des drames, où l'enfant est mal élevé, puis ensuite il y a de la criminalité là-dedans. Nous savons que la criminalité est à la hausse quand c'est des situations monoparentales. Alors, ça a des conséquences sérieuses. Alors, la sexualité, c'est un enjeu très sérieux, et je pense que cette approche festive est un symptôme d'un malaise et d'une décadence, et non d'un progrès. Alors, c'est quelque chose que nous chercherions à contrer à l'Association des parents catholiques du Québec, et que nous, notre profond souhait, ce serait de pouvoir fonder nos propres écoles, puis ainsi démontrer comment notre approche serait non seulement bonne pour les catholiques, mais il y aurait plein de gens qui choisiraient nos écoles et non ceux du système public. Malheureusement, le système public veut conserver son monopole parce qu'il veut imposer son idéologie. Vous parliez de comment l'Église avait le monopole, justement, et on pourrait parler de comment c'était injuste, que les gens étaient vraiment forcés là-dedans, sauf que les Juifs n'étaient forcés, ni les personnes athées ou qui voulaient simplement enseigner la morale sans théisme. Eux avaient une option. Alors, il y avait toujours des accommodements dans ce sens-là. Mais maintenant, ce qu'on veut nous imposer, c'est un genre d'hédonisme et au bout de la ligne, un relativisme. Tous les styles de vie se valent, que ce soit l'homosexualité ou l'hétérosexualité, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça, c'est fou, même si on parle de l'avenir d'un pays. Un pays qui n'appuierait pas l'hétérosexualité ne verrait pas d'avenir pour cette nation-là. Alors, je trouve que cette vision hédoniste et festive de la sexualité est mal fondée et néfaste pour une société, puis qu'on devrait corriger ce problème-là. Puis c'est certainement pas ce cours d'éducation sexuelle qui va améliorer les choses.
Une chose est sûre, c'est que au Québec, effectivement, lorsqu'on a, bon, on vit une libéralisation des mœurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Québécois francophone blanc de souche, on a un taux très élevé d'enfants qui grandissent dans un milieu monoparental. Et effectivement, que ça a des conséquences très néfastes. Par exemple, les familles sont beaucoup plus pauvres. Les francophones investissent très peu en éducation, contrairement à toutes les autres ethnies ou autres groupes religieux. Il y a des conséquences à ça. Sauf que dans la société d'aujourd'hui, avec Internet, avec les mœurs qui se libéralisent, etc., c'est rendu très difficile maintenant de mettre des barrières à surtout des adolescents qui ont, d'une part, la libido dans le prélat, les hormones qui sont au plafond, qui ont une facilité incroyable à avoir accès à du matériel sexuel sur Internet. C'est pas mal vu maintenant. T'sais, dans le temps, là, c'était mal vu si une fille couchait avec des gars. Maintenant, c'est le contraire. La fille est mal vue si elle couche pas avec des gars. Donc, c'est super difficile. Et moi, je trouve effectivement que quand on regarde le programme, puis juste pour... je vais montrer là une slide que j'ai reçue d'un de vos amis. Ça dit là-dedans, en deuxième année, c'est-à-dire les enfants de 7-8 ans, on va leur dire que l'anus est un organe sexuel. Et bon, le prépuce aussi. Bon, le prépuce, c'est un organe sexuel. Tu peux pas le poil de poche aussi, tu sais, tant qu'à faire.
Non, mais c'est...
Donc, c'est... OK, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ben probablement parce que le système d'éducation, maintenant au Québec, a été pris d'assaut par des postmodernistes, des gens qui sont ultimement politiquement corrects. Et si on met pas l'anus comme un organe sexuel, à ce moment-là, on cause un préjudice envers les homosexuels parce que pour un homosexuel, l'anus est un organe de choix lors de leurs ébats amoureux.
Oui, mais c'est ça. Mais de là à dire que c'est un organe sexuel,
Je ne pense pas, un organe sexuel.
qu'un bébé va sortir d'un anus dans les prochaines, dans 9 mois après la relation. Alors,
peut-être une catin, là.
Quel autre lobby va avoir gain de cause dans la prochaine édition de ce cours sexuel? Est-ce qu'il va avoir des animaux de compagnie comme organes sexuels? Est-ce qu'il va avoir est-ce que la pédophilie va être lentement introduite dans les prochaines années? Ça, on le voit déjà d'ailleurs, puis dans une dizaine d'années, ça sera presque mainstream. Alors, c'est que on est comme dans une période où il n'y a plus aucune barrière possible à la jouissance. Et c'est parce que l'homme n'a plus de sens dans sa vie. C'est comme si le but de la vie n'est plus saisi. Et tout ce qu'il y a, c'est la jouissance. Donc, trouvons tous les moyens. Et pour le commun des mortels, la sexualité, c'est la façon la plus facile d'avoir de la jouissance. Donc, on lui offre ce pain. Alors, on parle de pain de cirque là, pour divertir la masse. Alors, c'est le pain et le cirque pour les masses. On leur offre la sexualité parce qu'on ne peut pas leur offrir grand-chose d'autre.
Alors, à ce moment-là, dans votre optique, pour que ce soit acceptable, quel genre de contenu devrait avoir un cours sur la sexualité et qui serait acceptable pour votre organisation?
Alors, nous autres, c'est que d'emblée, ce n'est pas un cours de tuyauterie. Alors, on pourrait parler de la mécanique sexuelle, mais ça, c'est plutôt un cours de biologie secondaire 5 ou cégep même, quand on parle de comment les organes fonctionnent ensemble, puis tout ce qui se passe, le processus. Ce qui est important en enfance, ce qui est important, c'est de savoir... d'avoir des modèles, c'est de savoir comment vivre, point, avec les autres, avec les femmes, si tu es un homme, puis avec les hommes, si tu es une femme, si tu es une fille, comment agissent les femmes, tes femmes modèles, avoir des modèles. Nous autres, on parlerait de saints, de personnes qui ont accompli de grandes choses. Alors, les enfants, c'est des êtres épris d'idéaux. Ils veulent quelque chose dans la vie, ils veulent faire des choses, alors ils veulent avoir des modèles. Alors, dans la vie catholique, la vie consacrée, premièrement. Alors, il y a certainement rien dans ce cours-là qui va parler de vie consacrée et de chasteté et de continence complète pour toute une vie. Alors ça, c'est toute une catégorie de personnes et d'existences qui est complètement éliminée du spectre. Ensuite, quand on parle de sexualité, nous autres, c'est le mariage. C'est que l'acte sexuel se fait dans le mariage parce que l'acte sexuel a pour finalité la procréation. Puis quand tu as un enfant, c'est pas n'importe quoi, c'est un être humain, là. C'est quelque chose de précieux qui a une valeur infinie. Donc avec un enfant, si tu fais quelque chose qui va produire un enfant, t'es mieux de le faire dans une circonstance où tu peux assumer la responsabilité d'un enfant. Alors, dans le mariage, alors les cours à la sexualité s'appelleraient même pas cours à la sexualité, ça s'appellerait le mariage, préparation au mariage. Alors, les enfants apprendraient un peu c'est quoi un mariage, qu'est-ce qu'on fait dans la vie conjugale, peut-être lire des histoires de personnes mariées, mais pas dans les détails intimes, certainement pas, mais juste comment leur foyer vivait, leur vie de foyer, comment ils élevaient leurs enfants, quels étaient leurs expériences.
Mais ça, on ne peut plus faire ça maintenant, M. Buscemi, puis je vais vous dire pourquoi. Parce que selon les justiciers sociaux, qui sont majoritaires maintenant à l'université, ce sont des gens très, très libéraux qui font les cours maintenant, surtout là, à tout ce qui touche à la morale, comme par exemple, les cours de morale, etc., les cours de sexualité. Pour eux, le mariage, c'est le patriarcat. Les féministes s'opposent au mariage parce que le mariage, pour une femme, c'est l'esclavage. Et ce qui est étrange, moi personnellement, juste ma vie personnelle, moi, c'est après le mariage que j'ai plus eu de sexe. Vous autres, dans les catholiques, c'est après que vous n'avez, je trouve ça étrange. Mais pour en revenir au cours de sexualité, c'est sûr et certain qu'ils ne peuvent pas là-dedans parler de mariage, ou même si on... Mettons, on parle pas de mariage parce que c'est pas à mode, mais juste de dire, faire des enfants, c'est sérieux. Ne faites pas d'enfants ou ayez une sexualité qui est responsable si vous n'avez pas l'intention d'être capable d'élever un enfant avec cette personne-là. Et c'est effectivement que ça cause des problèmes sociaux très importants. Mais j'aimerais revenir au programme un petit peu parce que j'ai lu la lettre que vous avez adressée, je crois, au gouvernement, au ministère de l'Éducation, et il y a quelque chose qui vous chicote aussi, c'est lorsque le programme touche à la théorie du genre. C'est-à-dire que, puis il y a un organisme d'ailleurs au Québec qui milite pour que, et je crois que c'est légal maintenant, qu'un adolescent à partir de 13 ou 14 ans a droit de changer son sexe légalement, de prendre des hormones et de se transformer finalement en transgenre. Et ils vont probablement enseigner dès 5, 6 ans, 7 ans que, ben, tu vois, le genre que tu as, c'est plus dans ta tête que d'autres choses. Si tu as un pénis, ça ne veut pas dire que tu es un petit garçon parce que tu as un pénis, etc. Alors, ils s'en vont vraiment dans cette ligne-là. Et ça, ça vient directement des sciences molles, exemple à l'UQAM. Et gens-là sont très militants et c'est sûr qu'ils se ramassent au gouvernement et eux, ils veulent imposer ces théories basées sur absolument aucune science à la population parce que d'après eux, c'est politiquement correct. Ils veulent surtout pas blesser le 0,3% de transgenres qu'il y a au Québec. Et aussi, maintenant, Facebook reconnaît, je crois, 71 genres. Il y en avait deux il y a 3 ans, il y en a 71 maintenant, et probablement qu'il va en avoir d'autres avec le temps aussi.
C'est complètement loufoque et ça n'a pas de connexion à la réalité. Alors ça, c'est la théorie du genre, c'est la prochaine étape dans la révolution sexuelle, si on veut. Mais la révolution sexuelle a toujours été une révolution contre la raison. Mais cette dernière étape, c'est vraiment évident parce que la théorie du genre dit que, bon, moi, je pourrais m'identifier comme femme. Si je voulais, je n'ai pas besoin d'avoir les organes génitaux d'une femme ou quoi que ce soit. Alors, en autre mot, il n'y a aucune référence réelle à mon identité. C'est un sentiment subjectif qui peut ou ne pourrait être authentique. Comment définir l'authenticité d'un sentiment subjectif? Alors, moi, je pourrais inventer un genre, par exemple, qui dirait, ben moi, je suis de 7h à 8h une femme, puis de 8h à 9h, je redeviens un homme. Ou, pourquoi se limiter au genre? Pourquoi ne pas dire que, ben moi, je m'identifie comme femme inuite handicapée, et comme ça, je pourrais avoir tous les emplois dans le gouvernement parce qu'ils font ils engagent de façon préférentielle ces minorités-là. Et qui êtes-vous pour me nier mon identification? Alors, c'est vraiment où je suis un milliardaire, je m'identifie comme étant un milliardaire, alors ajoutez 6 zéros à mon compte en banque parce que c'est comme ça que je me sens. Alors vous devez répondre à mon identité que je choisis. Alors c'est vraiment un monde fantasmagorique, mais tout ça au service, mais ils vont permettre ça peut-être pour la sexualité. Ils vont permettre ça à la sexualité parce que je pense que c'est un moyen de jouissance très facile pour la masse. C'est ma seule théorie que je peux comprendre pourquoi ils permettent qu'on nie la réalité, mais seulement en sexualité, puis pas dans d'autres choses. Si j'allais à la banque puis je disais « je m'identifie comme milliardaire », est-ce qu'ils me donneraient $1 milliard si je leur demandais? Non.
Mais présentement, il y a des sports aux États-Unis au niveau du collège où maintenant les filles sont plus dans les équipes de filles parce qu'elles sont pas assez bonnes versus les transgenres.
Non, il y aura plus de femmes dans les Olympiques d'ici 10 ans si ça continue, ouais. Parce que ce sera toutes des hommes transgenres qui vont gagner tous les événements.
Oui, alors, je me suis imaginé des exercices que les enfants pourraient faire dans les cours de sexualité, et je sais que vous pouvez pas le voir vous parce que votre ordinateur fait pas de multitasking, mais là, je vais dire à ceux qui m'écoutent, là, soyez très attentifs. Okay? Ce sont des exercices que j'ai créés et ça pourrait ressembler à ça, les examens du ministère. Alors, ici, on voit un examen de sciences sexuelles pour ceux qui s'identifient comme des filles ou genre non traditionnellement féminin. Et vous devez associer les images en faisant des flèches. Alors, je laisse les gens à la maison prendre quelques secondes et voici les bonnes réponses. Maintenant, ils ont fait la même chose avec les garçons. C'est un examen de sciences sexuelles. Pour ceux qui s'identifient comme des garçons ou genre non traditionnellement féminin, alors je vous laisse quelques secondes pour écrire vos réponses. Il est un petit peu plus difficile celui-là, par exemple. Et voici les bonnes réponses. Et je me suis permis d'en faire un pour les Juifs aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis Juifs. Alors, faites la même chose, des flèches entre les différentes images, et je vais afficher la réponse d'ici 5 secondes. Prenez bien votre temps, mesdames et messieurs. Et voilà la bonne réponse. Ceux qui ne comprennent pas, là, à droite complètement, là, c'est un drap avec un trou dedans. OK? Alors... Parce que, mesdames et messieurs, l'éducation au Québec, c'est n'importe quoi. Moi, il y a une chose qui est sûre, OK? J'ai étudié au séminaire et les cours étaient longs, les cours étaient difficiles, ça allait vite. Et pour former l'élite de demain, ça prend des cours qui sont plus axés envers des matières de performance, des sciences, les langues. Tu sais, j'ai appris le latin, qui me sert encore aujourd'hui à incroyable. Comprendre des mots français, etc. Et là, quand je regarde ma fille au primaire puis des gens au secondaire, le genre de cours qu'ils ont, je me dis, comment est-ce qu'on peut être compétitif sur la scène mondiale si les sciences, à partir du deuxième cycle du secondaire, sont facultatives? Et là, tu commences à rentrer des cours de sexualité, puis je suis... Personnellement, je suis en désaccord avec les cours de sexualité, pas pour les mêmes raisons que vous, mais c'est sûr qu'à un moment donné, je suis pas sûr, moi, que je veux que mon enfant pense qu'un anus, c'est un organe sexuel. Parce que si on décortique le mot sexuel, ça a rapport avec la reproduction. Et l'anus, tu peux pas reproduire grand-chose avec un anus, à moins, je sais pas, d'être un surhomme ou une surfemme. En tout cas, il y a pas grand-chose à faire avec ça. Et le prépuce non plus. Le prépuce, ce n'est pas un organe sexuel. C'est un petit morceau de peau que tes parents ont choisi de ne pas couper quand t'es né. OK? That's it, that's all. Alors, c'est sûr que moi, je pense que vous avez raison de militer pour au moins dire, écoutez, là, si vous êtes pour donner des cours de sexe à l'école, un, êtes-vous obligé d'avoir un programme de 5 ans à 16 ans? C'est-tu si compliqué que ça, la sexualité, que j'ai besoin d'un cours récurrent à toutes les années à place d'apprendre les mathématiques, la physique, la chimie, les langues, l'informatique? C'est quand même incroyable.
Non, c'est certain que c'est une idéologie qui va le répandre. C'est certain qu'il y a des gens qui se disent, ben là, on a un gouvernement, on a un État, puis il faut en profiter. Nous avons l'éducation, nous avons ces enfants-là, il faut leur mettre quelque chose dans la tête, puis nous allons en profiter avec l'éducation, nous allons leur imposer une idéologie, puis ils vont s'en servir. Parce que sinon, ils institueraient le bon scolaire, ils rendraient obligatoire peut-être des matières fondamentales comme les maths, la langue, la maths et les langues, mais ensuite, ils instituraient le bon scolaire. Chaque groupe pourrait fonder leur école, puis les parents pourraient choisir leur école de leur choix. Ce ne serait pas juste l'école publique puis quelques écoles privées très chères. Ils pourraient, avec leur propre bon scolaire, choisir l'école de leur choix. Puis, on verrait qu'il y aurait un exode massif du système public. Puis, ils ne voudront pas ça. Ils veulent vraiment avoir une clientèle captive et ils veulent vraiment imposer leur idéologie. Je ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette théorie du genre-là. Je pense qu'ils sont peut-être pris en otage par le politiquement correct. Peut-être qu'il y a d'autres agendas quelque part, mais...
Moi, je pense honnêtement que c'est surtout ça. C'est le politiquement correct. Parce que si on regarde maintenant ceux qui veulent restreindre la liberté d'expression, ce sont des groupes j'aime pas dire des groupes de gauche, là, mais je dirais de la gauche régressive. C'est eux qui essaient de faire fermer la gueule, surtout, je dirais, aux catholiques, parce que ils voient cette religion-là comme une religion patriarcale, alors que si on regarde là, comme il faut, la religion catholique, c'est une religion qui est beaucoup plus libérale, par exemple, que la religion musulmane, qui, elle, est vraiment encore, à ce jour, très patriarcale. Alors, si on regarde les justiciers sociaux, ils veulent briser le patriarcat, ils veulent briser le tissu de la société, ils veulent pas de mariage, ils veulent des familles éclatées, c'est dans leur agenda, parce que pour eux autres, allaiter, c'est de l'esclavage, le mariage, c'est de l'esclavage, c'est du patriarcat, la femme ne peut pas s'émanciper dans un contexte de mariage, et ils militent depuis au moins 30 ans dans cet agenda-là. Et si on écoute la radio, par exemple, à Isabelle Maréchal, ça me surprendrait que vous soyez invité là. Mais par contre, les Judith Lucier de ce monde, les Éric Aymon de ce monde, eux autres vont être invités à tous les jours parce qu'ils ont un discours qui, à la surface, peut sembler égalitaire, juste, moral. Mais dans le fond, c'est le chaos et la décadence qu'ils vont rechercher.
Je pense qu'il y a quelque chose à aller voir entre un parallèle à faire entre ce mouvement-là de jouissance individualiste et de l'explosion de la famille et de la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est le problème, c'est les nations. Les nations, c'est le racisme institué, c'est l'oppression, c'est des particularismes qui sont des contraintes, qui sont source de xénophobie et de conflits. Et c'est le même discours qu'entretiennent les féministes par rapport à la famille. les familles sont des sources de particularisme, de préjudice, d'oppression. Donc, il faut les éclater. Et ces deux mouvements-là, la mondialisation et l'individualisme hédoniste qu'on véhicule avec ces cours-là d'éducation à la sexualité, ces deux choses-là ont pour but d'atomiser complètement la personne, de défaire tous les liens d'affectivité entre individus et de les rendre complètement soumis à un gouvernement mondial, ou je sais pas trop, mais à un système. Alors, je pense que c'est juste une autre facette de ce combat dont vous parlez souvent, du mondialisme contre le nationalisme. Puis, mais une facette de ça, c'est ces cours-là qui prônent l'individualisme à outrance, sans même un respect envers la réalité, hein, envers la réalité sexuée, envers la réalité du mariage.
C'est dans la loi C-16 au Canada, déclare que, par exemple, si une personne, je dis transgenre, mais ça peut être n'importe quel genre, parce qu'il y en a beaucoup maintenant, cette personne-là peut exiger que vous l'appeliez par le pronom de son choix. Ouais. Un nouveau pronom, pas lui, elle, ça peut être prut, le pronom.
Ouais, c'est ça.
Et si vous ne l'appelez pas par son pronom, ça devient du discours haineux. Et le discours haineux, c'est criminel. Et il y a le docteur Jordan Peterson de l'Université de Toronto qui se bat pour la liberté d'expression. C'est-à-dire que la liberté d'expression devrait me donner le droit de dire ce que je veux, puis mes pensées, puis d'utiliser les mots de mon choix. C'est pour ça que même des mots racistes comme « neg », « wop », Jap, c'est même pas illégal. Mais là, la loi C-16, c'est pas « t'as pas le droit de dire ces mots-là », c'est que t'es obligé de dire ces mots-là, ce qui est encore bien pire, et c'est dans la loi maintenant. Alors, avec un gouvernement comme ça, ben c'est sûr que le cours de sexualité va être à l'image de nos lois. Faut pas choquer personne. Et puis, bon, ben puis le pire, c'est que honnêtement, il risque de choquer bien plus de monde en disant que l'anus, c'est un organe sexuel. Moi, quand j'étais au cégep, à un moment donné, on avait un cours de... Je sais pas trop quoi, là. Un cours de où il parlait de sexualité. Je me rappelle pas du nom du cours. Et on avait des exercices à faire. Il fallait se toucher à nos parties. Puis genre, comment tu te sens quand tu touches à ton scrotum? Comment tu te sens quand tu touches à ton anus? Moi, j'ai regardé la feuille. J'étais-tu malade? Tu penses-tu vraiment que je vais m'enfermer dans ma toilette pendant une heure de temps? Tu sais, j'ai 18 ans, là. Tu sais, une minute, là. Et les gens étaient très choqués dans le cours de dire, comment ça tu veux je me rentre un doigt dans le derrière? Je vais pas me rentrer un doigt dans le derrière. Es-tu malade? Alors, oui, moi, je suis persuadé que, imagine, là, j'étais au cégep, là, j'étais un adulte. Imaginez un enfant de 7 ans qui est genre... OK, est-ce que l'anus est un organe sexuel? Non. Ah, 0%! Mais non, c'est un organe sexuel!
C'est tordu. C'est vraiment tordu. Puis nous autres, on appellerait ça démoniaque.
Oui.
C'est démoniaque parce que c'est scandaleux. On suggère des choses aux enfants. C'est comme si on les violait un peu. C'est ce que fait un pédophile quand il approche un enfant, il veut le séduire, il va dire « Bon, c'est correct si tu fais ça. Essaye donc, mets-toi ton doigt dans ton anus, vois si c'est correct. » Puis là, c'est dégueulasse. C'est vraiment...
Surtout les enfants s'essuient tellement mal quand ils vont aux toilettes. J'ose même pas imaginer. Moi, ma fille, faut que je me batte avec qu'elle se lave les mains. Je te dis, là, j'aimerais pas qu'elle ait des exercices dans ce genre-là, ça serait incroyable. Même là, quand vous dites démoniaque, même dans la Bible satanique, ils disent même pas que l'anus est un organe sexuel. C'est même pas démoniaque, c'est autre chose. C'est au-delà de tout ce qui a été écrit dans l'histoire de l'humanité.
C'est juste pour le C-16, c'est juste qu'on nous dit en fin de compte qu'on est on est rendu en Orwell 1984, il faut que tu dises que 2 plus 2 font 5.
Exactement.
Alors si moi je te dis 2 plus 2 font 5, puis c'est ma vérité, toi tu dois le répéter. Tu dois le répéter. Puis là, c'est fini, là. C'est rendu vraiment au bout de la ligne. Peut-être qu'avant, c'était moins clair. Peut-être qu'il y avait certaines avancées. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais maintenant, on est vraiment rendu à l'absurde. Là, vraiment, oui. c'est les gens qui nient la réalité. Tu n'es pas un homme, tu es une personne qui s'habille comme une femme. Oui, il faut respecter ta personne, puis peut-être que tu as eu des problèmes dans ta vie, puis OK, tu es un être humain. Mais c'est toujours quelque chose, on nous rapproche toujours ça aussi, les chrétiens, quand on dit on aime le pécheur, mais pas son péché. Mais c'est toujours la distinction à faire entre la personne qui a le problème, puis le problème. Quand c'est une fausseté, il faut quand même respecter la personne, puis savoir pourquoi elle dit ça, pourquoi il dit ça qu'il est une femme, mais de là à dire être d'accord avec lui puis rentrer dans son mensonge, dans sa fantaisie, quelqu'un qui se dit Napoléon, on commence pas à lui donner des chevaux pour aller à Saint-Pétersbourg puis commencer une guerre. Ben là, non, c'est que il faut composer avec la réalité. Il faut être sensible et compréhensif avec les gens, mais il ne faut pas mentir ou nous forcer de nier la réalité juste pour ménager les sentiments des gens. Je comprends pas.
Ouais. Par contre, je comprends que dans la religion catholique, l'homosexualité, c'est quelque chose de très mal, mais même le pape actuel semble être beaucoup plus ouvert à l'homosexualité parce qu'il y a un consensus, je pense, maintenant au niveau scientifique que l'homosexualité, c'est pas quelque chose que tu choisis, comme par exemple être un hétérosexuel, c'est pas quelque chose que j'ai choisi moi dans ma vie. J'ai pas pris une décision un jour, OK, bon, ben, je pense que je vais être hétéro finalement. Est-ce que vous seriez contre le fait que dans un cours d'éducation sexuelle, exemple, on dise à vos enfants que l'homosexualité, c'est une orientation qui fait partie de la nature et c'est normal parce que à n'importe quelle époque de notre histoire, il y a à peu près 10% d'homosexuels, autant chez les hommes que les femmes. Okay. Est-ce que vous avez la même ouverture que le pape actuel à ce niveau-là?
Ben bon, pour ce qui est du pape, me semble pas qu'il y ait une ouverture sur l'immoralité de l'acte homosexuel en soi. Ce qu'il disait, qui suis-je pour juger un homosexuel qui se serait repenti? Parce qu'il y avait... Il y a un homosexuel qui travaille pour lui dans sa maison Sainte-Marthe, en tout cas. Alors, les journalistes le questionnaient sur sa décision d'engager un homosexuel, un ex-homosexuel, puis disaient, ben là, il se dit repenti, donc il suit pour juger sa vie passée s'il a passé à autre chose.
Mais un ex-homosexuel, je comprends pas, parce que si
ben, c'est une personne qui a choisi d'arrêter de le style de vie. Alors, puisque c'était d'ailleurs un prêtre là, qui a eu des relations homosexuelles avec différents types, puis on l'a attrapé dans ces actes-là, puis là il s'est repenti, puis il a arrêté apparemment. Alors le pape dit ben il a arrêté, alors c'est fini là.
Donc vous croyez alors, encore bon. À ce jour que l'homosexualité maintenant, les homosexuels sont des pécheurs? Parce qu'il y a un style de vie homosexuel?
Alors, pour répondre à ta question, c'est que même si c'est quelque chose, disons même que c'était génétique, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de naturel. Dans le sens où on voit bien que la sexualité, homme-femme, d'un être humain, c'est pour la reproduction, c'est évident. Alors, si tu as... genre un attrait envers les hommes était un homme, et même si, disons, ça s'avérait génétique, ça n'a pas été prouvé, mais disons, même si ça s'avérait être génétique, ça pourrait être genre une malformation génétique, un peu comme la tendance à être alcoolique. Il y a certaines personnes qui ont cette tendance à être alcoolique, à vouloir boire, puis c'est un problème pour eux, c'est un fardeau pour eux, mais ils ont beaucoup de difficultés à s'empêcher de boire. Puis c'est quelque chose qui est transmis de père en fils, puis quelque chose de familial. Alors, eux sont nés avec ça, mais ça ne veut pas dire que pour eux, boire à excès est bon. Alors, la même chose avec l'homosexualité.
Je trouve votre comparaison un peu boiteuse quand même. Parce que les homosexuels, honnêtement, là, moi, j'ai comme une espèce de radar, là, on appelle ça un gaydar. Là. Moi, j'ai spot assez facilement. ils ont une façon bien particulière de parler. Ils ont un timbre de voix qui est particulier. Ils ont une démarche particulière.
Ouais, c'est
une
vrai.
Façon de s'exprimer qui est particulière. Alors, on voit que c'est dans le code génétique, ces gens-là. Puis, pourquoi il y en a tout le temps 10%?
Ben, il y en a. Ben, je sais pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec le 10%, mais disons même que c'était 10%. Moi, j'ai entendu 2%.
Ah, 1 non, ou c'est 2%. Beaucoup plus que ça.
Mais même si c'était 10%, c'est que. Bon, pourquoi il y a X % de personnes de manchots? Pourquoi qu'il y a, qui sont nés avec les pieds bottes? Pourquoi qu'il y a un certain pourcentage de personnes qui sont nées aveugles?
On parle de pourcentage beaucoup plus petit, mais si on regarde même dans le règne animal, il y a de l'homosexualité.
Oui, mais.
Le règne animal, il y a également certains animaux, par exemple, qui sont monogames.
Ouais.
Et certains animaux qui ne le sont pas, comme exemple le bœuf, va jamais avoir deux relations sexuelles avec la même vache. Même si on maquille la vache, même si on change l'odeur de la vache, le bœuf va toujours reconnaître la vache avec qui il y a eu une relation sexuelle. Peu importe comment tu as maquillé et tu essaies de la changer, etc.
Okay. Okay.
Mais, donc, l'homosexualité, je pense que honnêtement, les recherches ont démontré, et ça date pas d'hier, que c'est une orientation sexuelle. Et même si ça vient à l'encontre des livres saints, on peut prendre bon la Bible, Ancien Testament, Nouveau Testament, le Coran, qui vont dire, par exemple, que tu ne peux pas aller au lit avec une personne de ton genre. Ben, c'est sûr que ces écrits-là, si on les considère comme saints, immuables, ben, c'est sûr que ça va venir en contradiction à un moment donné avec tout ce qu'on voit parce que on fait des découvertes sans arrêt qui viennent en contradiction avec les livres saints. Et moi, je pensais que la religion catholique, justement, embrassait ces changements-là. Comme je vous dis, moi, j'ai été au séminaire au début des années 80 et les profs les plus « cool », entre guillemets, c'était des religieux, des pères et des frères. Je veux dire, mon prof de latin était complètement capoté. Mon prof d'histoire en secondaire 2, encore plus. Et il y avait une ouverture d'esprit incroyable. Et c'est pour ça que je trouve drôle qu'encore aujourd'hui, vous considériez l'homosexualité comme un péché.
Ben, l'homosexualité comme telle, l'orientation, avoir une orientation, ce n'est pas péché. Parce que tu n'as rien fait encore. Mais même un hétérosexuel qui pratiquerait la sodomie, c'est un péché aussi. Alors, c'est juste l'usage de l'organe sexuel de la mauvaise manière, c'est un péché. Alors, l'homosexualité, si une personne se sent attirée vers des personnes du même sexe, cette attraction-là n'est pas en soi un péché, c'est juste une condition qui a émergé, on ne sait pas trop bien comment. Ça peut être génétique ou ça peut être quelque chose dans sa jeunesse. Alors, qu'importe, elle a cette orientation-là qui est assez forte en elle. Alors, mais d'agir sur cette tentation, ça, c'est un péché parce que l'acte sexuel a pour finalité, a pour but la reproduction. Donc, de faire ça d'une manière à ce que la reproduction soit complètement impossible, ce sera toujours un mal.
Est-ce que ça se pourrait que ce soit juste Mère Nature qui veut contenir, je sais pas moi par exemple, qui serait une espèce de limite à la reproduction, parce qu'on s'entend là, sur la planète maintenant, on est le double d'humains qu'il y a 40 ans. Est-ce que c'est possible que ce soit juste la nature qui fait que, OK, ben pour contrôler la population sur la planète,
il y a plus
d'homosexuels parce que bon, la mère nature, je pense qu'elle est beaucoup plus mystérieuse que n'importe quelle religion. Est-ce que ça pourrait être possible? Je ne le sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que partout sur la planète, aussitôt qu'il y a des êtres humains, il y a de l'homosexualité. Ils ne se sont pas parlé entre eux autres, mais c'est une chose qui existe. Mais de toute façon, religion catholique, la manière qui est faite, ce qui est cool, c'est que sur ton lit de mort, tu peux te repentir, Jésus va te pardonner, puis tu t'en vas au ciel, de toute manière.
Oui, si c'est un vrai repentir, mais si toute ta vie, t'as pas été fidèle, ben à la fin, tu manqueras peut-être de pratique. Il faut pas présumer quand même. Mais oui, en principe, oui, la personne peut être sauvée dès la fin avec une contrition parfaite. Elle peut être sauvée.
Moi, je peux te dire une chose. Si jamais un jour, j'ai une expérience homosexuelle, je te garantis que le lendemain, j'en vais énormément de regrets.
Okay,
et de repentir. Parfait. Ça, je te le promets. Mais par contre, qu'est-ce que tu veux, la culture, ben moi, je vais te dire une chose. La culture homosexuelle, oui, elle est très festive. Et dans notre société, les homosexuels, c'est une communauté qui bon, c'est sûr, ils font pas d'enfants, mais ils sont quand même très productifs à d'autres niveaux. Et J'aimerais, moi, que la religion catholique, surtout qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de prêtres homosexuels. Je veux dire, moi, le moine qui nous gardait quand je te pense, il s'est essayé sur une couple de kids, là. En sachant ça, peut-être ouvrir un peu notre esprit en disant, Jésus, ouvre tes bras un petit peu plus grands, accueille dans ton église ces homosexuels. Alors déjà, il y en a beaucoup qui sont rentrés déjà dans ton église, mais fais-le de façon officielle parce que ce sont quand même des enfants de Dieu. Ils n'ont pas choisi d'être comme ça. Ils ont été, si Dieu crée les humains, ben pourquoi tu me crées comme ça?
Oui, mais tous les humains qui ont des difficultés, des tentations, ont la même chose. Comme un homme qui veut baiser toutes sortes de femmes, il est marié déjà. Je suis fait comme ça, j'ai vraiment une libido énorme, puis je suis pas capable de rester avec seulement une femme, puis elle veut plus, là, puis là. Alors que cet homme-là, il va falloir accepter l'adultère d'abord, parce que ces hommes-là seraient construits comme ça, il faudrait les accommoder. Ou les hommes qui sont peut-être violents, qui sont nés un peu avec un tempérament violent, mais il faudrait un peu les permettre de tabasser les gens un peu, parce qu'il faudrait tolérer ça, parce qu'ils sont nés comme ça, puis même si tu es de temps à autre, ben pour cette sorte de personnes-là, puisqu'ils sont nés comme ça, il faudrait tolérer ça. D'autres qui sont avares, s'ils volent de temps à autre, il faudrait peut-être tolérer ça, parce qu'ils sont nés comme ça, ils sont nés avares. Ils ont
mais
toujours,
les homosexuels, ils font pas mal à personne, là, je veux dire, c'est pas comme quelqu'un qui bat sa femme ou peu importe, là. Ils font pas mal à personne, à moins que la personne veuille avoir mal.
Non, mais c'est aussi la maladie qui se transmet par ces rapports-là. Et aussi, quand je disais que la révolution sexuelle, dès le début, c'était une révolution, une attaque contre l'intelligence, contre la raison, puis que maintenant ça aboutit, c'est que, oui, les homosexuels, dans leur militantisme, s'attaquent à la raison. Par exemple, quand ils veulent appeler leur union un mariage, c'est comme appeler un anus un organe sexuel, ça ne l'est simplement pas.
Mais ça dépend, c'est qu'un mariage, comme le père Rodrigue m'avait expliqué, mon prof de latin, quand il a expliqué, exemple, yug, comme dans cum yugere, qui est le conjoint, oui. Le jug, puis là, il disait que ben vos parents, c'est comme un bœuf puis une vache, ils ont un jug. Et ça vient de là, cum yugere, joindre ensemble ou joindre avec. Ben, tu peux mettre deux bœufs, ça fait quand même des conjoints. Ils sont liés ensemble par des sentiments forts et ils vont se marier parce que dans leur tête, comme vous, par exemple, quand vous avez marié votre femme, vous étiez persuadé que cette femme-là, c'est cette personne-là que je sais que je vais aimer jusqu'à la fin de mes jours. Ouais. Et c'est pour ça que je suis prêt à me compromettre même devant Dieu, pour dire « je la choisis » et ce qui est fort là-dedans et ce qu'on a pu maintenant, ce que je dois donner aux religieux qui se marient, c'est dans le doute, tu te rappelles de tes vœux. Et ça te permet peut-être de passer à travers des moments plus difficiles, ce que les gens qui n'ont pas de fondements moraux n'ont pas. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a autant de divorces chez les francophones blancs, et pas juste de divorces, mais je parle de séparation, même s'ils ne sont pas mariés. Et 70% de ces séparations-là sont initiées par la femme. Mmh. Alors, c'est ça. Il y a ça, par exemple, qui, dans la religion, qui était très bien, c'est justement le fait que ça fait des familles solides. Et je suis persuadé qu'avec les convictions que vous avez, que vous allez rester jusqu'à la fin de vos jours avec votre femme, vos enfants sont garantis, à moins qu'il y ait un décès, de grandir dans un milieu où il va y avoir papa, maman qui va les aimer, qui va les aider. Au niveau économique, vous allez être beaucoup plus fort, vous allez pouvoir investir dans leur éducation et ils vont partir en avance sur beaucoup, beaucoup d'autres Québécois. Et ça, c'est ce que je trouve bien de la religion catholique. Mais je dois vous dire que mes profs des années 80 étaient beaucoup plus libéraux que vous, M. Buscemi.
Oui, c'est ça.
Alors, je dois mettre fin. Ah, ben, je vais laisser le mot de la fin parce qu'on parlait. Parce que là, je dois mettre fin à cette émission.
Oui, oui.
Et on parlait du programme d'éducation sexuelle que le gouvernement veut mettre de l'avant. Je vous laisse le mot de la fin et je vous remercie infiniment d'être passé à mon émission.
Ben, je vous remercie, M. Pitre. J'aimerais simplement que le gouvernement nous laisse tranquille avec ses idéologies, que ce soit le cours éthique et culture religieux, que ce soit, ce cours d'éducation sexuelle délirant où on parle de genre, de transgenre, tranquille, puis encore plus, donnez-nous plus de liberté scolaire, donnez-nous vraiment la liberté de fonder nos propres écoles, qu'il y ait un curriculum obligatoire, mais avec des matières fondamentales comme les mathématiques et les langues, mais le reste, ça sera au choix des parents, et ils peuvent fonder leurs propres écoles, puis on laisser le marché décider qui va envoyer leurs enfants où. Puis moi, je suis certain, je mettrais ma main au feu, mais si on avait vraiment le droit de fonder des écoles catholiques comme on le voudrait, il y aurait plein de gens qui viendraient à nos écoles, pas seulement des catholiques, c'est certain. Ils voudront aller simplement pour la stabilité, le bon sens, puis il n'y aura pas de ces cours idiots et qui gaspillent tellement de temps. Et il n'y aura pas ce constructivisme social, ce relativisme, ces affaires de cours où chacun construit sa réalité. Alors, j'aimerais simplement que le gouvernement nous laisse tranquille. Mais il veut clairement imposer ses idéologies. Alors, nous devons simplement combattre le gouvernement pour l'instant. Mais j'espère qu'il va, dans le futur, nous laisser tranquille.
Alors, ben, je vous remercie beaucoup pour ce mot de la fin. Je souhaite une bonne soirée. Et puis moi, ben, je remercie tout le monde d'avoir été là ce soir. J'ai des invités qui sont très différents les uns des autres. J'aime de plus en plus l'émission que je fais présentement. Donc, on a des points de vue différents. Et je vous invite à être là à mon émission. Je fais un live jeudi aussi où on va parler d'humour et de liberté d'expression avec Alex Douville. Alors, merci d'avoir été là. Merci à mes patrons qui se sont inscrits sur mon Patreon qui rendent cette émission possible. Merci à ceux qui me font des dons aussi sur PayPal, ça aide énormément. Alors là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit très prochainement.